Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous.
Donc c'est à travers l'élevage qu'on a pu coloniser toujours plus loin à l'intérieur de terre. Et donc quand on parle de la patte de la vache, c'est ça, c'est vraiment cette double catastrophe. Donc d'un côté, ça empêche les paysans et paysannes d'avoir accès à la terre, parce qu'il suffit que le propriétaire terrien lâche quelques têtes de vache pour dire c'est des terres productives. Et d'un autre côté, même s'ils arrivent à avoir accès à cette terre, elle est tellement compactée par la patte de la vache, parce que c'est pas un animal de chez nous, c'est pas censé être là. On n'avait pas des herbivores aussi grands, on n'avait pas des mammifères aussi grands là-bas, quand les colonisateurs sont arrivés. Et ça compacte vraiment, il m'a expliqué à quel point ça compacte la terre de façon que ensuite plus rien ne pousse.
Épisode 25, première partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Récemment, un auditeur de Comme un poisson dans l'eau a laissé ce super avis sur Apple Podcast. Je cite, « Ce podcast fait du bien, d'abord parce qu'il ouvre des pistes pour une société antispéciste, ou au moins écologiste et contre d'autres formes de domination. Ensuite, parce que l'animateur maîtrise bien ses sujets et pousse les intervenantes à développer toutes les questions possibles. On prend le temps, on fait des propositions, on s'arme pour changer le monde. Merci beaucoup pour tous vos avis, commentaires, retours et encouragements. Effectivement, j'ai pris le parti dans ce podcast de prendre le temps de déplier ensemble les sujets complexes liés au spécisme. De ne pas chercher à raccourcir à tout prix les entretiens si ça impliquerait de couper des propos intéressants. Et d'avoir le soin d'explorer les questions connexes, de soulever les objections pertinentes pour enrichir la discussion. C'est l'intérêt de cette forme du podcast, de pouvoir mettre sur pause, revenir en arrière, écouter plus lentement, réécouter des épisodes, etc. Vous êtes libre de prendre cette matière et de l'adapter à vos besoins et à votre motivation, d'explorer plus ou moins à fond tel ou tel sujet. Du coup, dans ce monde hyper connecté où l'attention est flottante, où les contenus doivent être courts pour concurrencer la myriade d'autres contenus disponibles, je pense que c'est une vraie force de savoir passer ce moment plus posé ensemble, de savoir prendre du recul pour en effet, du moins j'espère, mieux s'armer pour changer le monde. Tout cela pour vous dire qu'on se lance dans un nouvel entretien en plusieurs parties. Entretien passionnant avec une invitée tout simplement exceptionnelle, Sandra Guimaraes, qui nous invite à décentrer le regard et la conception qu'on se fait dans les pays occidentaux, dits du Nord, de l'antispécisme. On parle de la façon dont les enjeux antispécistes se posent au Brésil, on parle de colonisation, d'oppression des populations indigènes, de l'alliance de régimes d'extrême droite avec les lobbies de la viande, et aussi de la façon dont tout ça est tout de même relié à nos luttes locales en Occident. Parce que, comme le dit si bien mon invité, tout est connecté. Bonjour Sandra Guimaraes.
Bonjour.
Alors d'habitude je présente mes invités directement dans l'introduction de l'épisode, mais j'aimerais vous demander de vous présenter vous-même, si vous êtes d'accord.
Oui, donc je suis née au Brésil il y a 41 ans, en tout cas le territoire colonisé qu'on connaît comme le Brésil, dans le nord-est, dans une famille de paysans et paysannes sans terre, plusieurs générations. Je suis arrivée en France quand j'avais 20 ans pour faire mes études. J'ai vécu 6 ans ici, j'ai fait des études de linguistique. Ensuite, j'ai abandonné la linguistique pour me dédier à la cuisine végétale. C'était à ce moment-là où je suis devenue antispéciste. Et depuis, j'ai vécu des années en Palestine, où j'ai participé à la construction de plusieurs luttes locales, où j'ai apporté ma solidarité plutôt au peuple palestinien. Et j'ai travaillé aussi avec des femmes réfugiées dans un camp de réfugiés à Bethléem. Je suis retournée en Europe plus tard et j'ai vécu à Berlin, à Bruxelles, à Londres. J'ai vécu un petit moment à Beyrouth aussi. Et partout où je vais, j'essaye de m'insérer dans les luttes locales et de participer à la construction aussi de toutes ces luttes qui se passent autour de nous. Je pense que c'est important, même si l'antispécisme reste mon horizon. Et c'est une sorte de phare qui me guide à chaque fois. Mais on ne peut pas construire cette lutte sans construire toutes les autres. Je suis revenue en France plutôt en 2019, fin 2019, donc c'est la deuxième fois où je vis en France. Et je vis à Aubervilliers, c'est dans le 93, dans la banlieue nord de Paris, et je fais partie de plusieurs collectifs là-bas, un collectif de solidarité populaire, les BSP, un collectif antispéciste, mais aussi un collectif de défense des jardins ouvriers des vertus. C'est une lutte qui dure depuis plusieurs années, et je trouve que c'est extrêmement important en tant qu'antispéciste de construire d'autres luttes, comme j'ai dit.
Super, bah cet entretien va être l'occasion de revenir un peu sur toutes ces luttes et comment vous avez peut-être construit des convergences aussi entre différentes questions, différentes luttes sociales sur le terrain. Et avant ça, j'aimerais qu'on parle de la situation au Brésil. Et en fait, je voudrais qu'on parte ensemble d'une expression qui existe au Brésil. On parle parfois de la patte de la vache. Alors, à quoi est-ce que ça renvoie cette patte de la vache?
Il y a plusieurs années, j'ai visité une communauté de paysans sans terre. Donc, je ne sais pas si tout le monde ici connaît le mouvement des travailleurs et travailleuses sans terre, le MST.
C'est peut-être l'occasion de l'expliquer.
C'est le plus grand mouvement social au Brésil, un des plus grands mouvements sociaux au monde, très puissant en Amérique du Sud. Et c'est un mouvement qui est né au début des années 80, dont le but est d'essayer de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il respecte la constitution qui dit que la terre doit avoir une fonction sociale, elle doit produire. Donc ce qui se passe au Brésil, c'est que c'est un des pays avec une concentration foncière, mais immense, je pense que c'est le deuxième, la plus grande concentration foncière au monde. Pour donner une idée, 50% des terres appartiennent à moins d'1% de propriétaires. Parce qu'on a hérité d'un système colonial. Dès l'invasion des Européens, ils ont partagé le territoire, un grand, grand morceau de terre qui était transmis de façon héréditaire. Et on appelle ça les latifundios, c'est les énormes extensions de terre, et c'est des héritiers directs de la colonisation. On n'a jamais eu des réformes agraires. Donc ce système perdure.
Donc la réforme agraire, c'est ce qui permettrait de redistribuer en fait les terres de façon plus égalitaire.
Exactement, et de donner accès à la terre aux paysans et paysannes. C'était surtout à la fin de l'esclavage au Brésil, qui était quand même assez tard, en 1888, les personnes noires n'ont pas eu la possibilité d'avoir accès à la terre. Et du coup, ce système est resté intact. Donc, il y a très peu de changes qui ont bougé depuis le début de la colonisation. Et le MST, c'est un mouvement qui demande justement la réforme agraire, mais pas n'importe laquelle, une réforme agraire populaire portée par le peuple. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'on identifie des terres qui sont vides, des terres privées qui sont vides, qui ne sont pas utilisées. On fait une occupation pour mettre en évidence que ces terres-là ne sont pas en accord avec la Constitution et pour demander le partage équitable de cette terre. Donc mon père a rejoint le mouvement quand j'étais enfant. Donc je disais, mes parents étaient des paysans sans terre, mes grands-parents aussi. Et pendant plusieurs générations, donc de la fin de l'abolition de l'esclavage jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'aux années 70, le système qui était en vigueur, surtout dans ma région, était, je pense qu'en France on appelle ça métayage. C'est les paysans n'ont pas de terre, donc on va travailler sur les terres du seigneur et ensuite on est payé avec la moitié de la récolte. Mais évidemment, c'est un peu le patron, c'est toujours le patron qui décide combien il a fait avec cette récolte, donc on n'était jamais sûr. Mon père me raconte toujours, c'est drôle parce que récemment j'ai retrouvé un enregistrement, des fois je l'enregistre mon père parce que j'ai peur d'oublier toutes ces histoires, et aussi parce que pendant tellement longtemps j'ai eu honte de ce passé, j'étais vraiment honteuse d'avoir un père au MST, parce qu'il y a le discours au Brésil, le discours hégémonique, mais aussi dans les médias, on va te dire que les sans-terre, c'est des criminels qui veulent voler la terre. Bon, c'est la criminalisation des mouvements sociaux qu'on voit partout dans le monde. Et parce que j'ai eu tellement honte de lui pendant tellement longtemps, maintenant je me rattrape un peu et je l'enregistre deux fois, je lui demande de me raconter des histoires. Et j'ai retrouvé cet enregistrement il n'y a pas longtemps, où il me racontait, il utilisait carrément le mot esclave, il a dit on était les esclaves de machin, blablabla. Bah ça c'est les années 50-60, hein. Mais c'était vraiment un système où il parlait d'esclavage aussi, même si le bon terme c'est métayage, parce qu'ils étaient libres de partie, mais en fait ils n'étaient pas tellement libres parce que tu travaillais la terre du patron, et ensuite il y avait l'épicerie du patron, et tu devais prendre de la nourriture là-bas, donc tu avais toujours des dettes.
Ah, oui.
Et donc, si t'avais des dettes envers le patron, tu pouvais pas partir. T'étais pas libre de partir. Et tout le monde était endetté. Il m'a dit que quand il allait à l'épicerie du patron, on te disait même pas combien ça coûtait le kilo de riz ou rien. Il notait tout ça sur un petit carnet et tu savais même pas combien tu devais.
Qu'il retenait, en fait, sur le salaire, qui faisait qu'il y avait un salaire de misère, voire en fait pas du tout de salaire, parce qu'il disait vous avez dépensé plus que ce que vous avez le droit.
À la fin de la récolte, il disait voilà, j'ai gagné ça avec la récolte, mais toi tu me dois ci, donc du coup à la fin de l'année, enfin il restait pas grand chose. Le MST est un mouvement qui lutte pour changer ça, pour faire justement respecter la Constitution, parce que c'est dans la Constitution le droit à la terre, c'est un droit, hein, c'est un droit humain. Et donc le MST se bat pour avoir l'accès à la terre, c'est énorme. Il y a énormément, des centaines de milliers de familles qui font partie. Il y en a beaucoup qui ont réussi à avoir des terres. Mon père a réussi à avoir des terres quand j'avais près de 20 ans, après des années de lutte. Mais c'est ça, en fait, le mouvement, le MST, le mouvement des travailleurs sans terre.
D'accord. Et par rapport donc à cette terre, il y a un lien, finalement, avec les animaux et avec le spécisme. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle de la patte de la vache, c'est ça?
Ah oui, donc on était sur ça. Je me demandais comment on était arrivé là. Il y a des années, j'ai visité une communauté sans terre, à Bahia, dans ma région, le Nord-Est. Et en discutant avec un des leaders de la communauté, il m'a dit « Tu sais, ma fille, notre plus grand ennemi, c'est la patte de la vache. » Et j'ai dit « Mais pourquoi ça ?» Parce qu'en fait, justement, comme les terres doivent être productives, sinon elles peuvent être partagées. Et quand je dis partagées, c'est pas de la socialisation de la terre. C'est l'État achète les terres aux propriétaires, qui ensuite vend les terres aux sans terre. Donc mon père, il a dû payer sa terre, on paye sur 20 ans. C'est jamais donné, donc
c'est pas
de l'expropriation qu'on fait, pas du tout. C'est juste l'État achète la terre au propriétaire qui n'utilise pas sa terre, et ensuite la partage en plusieurs parcelles, et il y a des paysans et paysannes sans terre qui vont s'installer, qui vont rembourser l'État sur 20 ans.
D'accord.
Et donc pour ne pas justement avoir des terres improductives, qu'est-ce que les patrons font? Ils lâchent du bétail sur la terre. Et du coup, s'il y a de l'élevage bovin, c'est pas considéré comme de la terre improductive. Donc il peut garder ses énormes extensions. Mais ce paysan sans terre me parlait de la patte de la vache comme le plus grand ennemi des sans terre, non seulement pour ça, mais aussi parce que là où elle passe, la vache, elle compacte le sol et plus rien ne pousse. Donc les gens ne savent peut-être pas, mais les vaches ont été amenées au Brésil par les colonisateurs européens.
Il n'y en avait pas
il
sur
en avait
le
pas
territoire
chez nous.
Initial vaches, avant la colonisation.
Non. Ni vaches, ni chèvres, ni moutons. Ben non, il n'y en avait pas. Et donc, quand les colonisateurs ont envahi le Brésil en 1500, très très vite, donc on a des registres, les premières vaches qui ont été amenées au Brésil, c'était en 1534. Mais parce que le colon voulait avoir non seulement sa nourriture à lui, parce qu'il n'allait pas se mettre à manger du manioc et du maïs comme les indigènes, voyons, c'est pas de la nourriture ça, mais aussi, et ça c'est vraiment triste, l'exploitation animale au Brésil a toujours été utilisée comme outil de colonisation, d'expansion territoriale. Donc c'est à travers l'élevage qu'on a pu coloniser toujours plus loin à l'intérieur de terre. Et donc quand on parle de la patte de la vache, c'est ça, c'est vraiment cette double catastrophe. Donc d'un côté, ça empêche les paysans et paysannes d'avoir accès à la terre, parce qu'il suffit que le propriétaire terrien lâche quelques têtes de vache pour dire c'est des terres productives. Et d'un autre côté, même s'ils arrivent à avoir accès à cette terre, elle est tellement compactée par la patte de la vache, parce que c'est pas un animal de chez nous, c'est pas censé être là. On n'avait pas des herbivores aussi grands, on n'avait pas des mammifères aussi grands là-bas, quand les colonisateurs sont arrivés. Et ça compacte vraiment, il m'a expliqué à quel point ça compacte la terre de façon que ensuite plus rien ne pousse. Et il y a un troisième élément, c'est que l'herbe pour la vache, comme il n'y avait pas de vache chez nous, il n'y avait pas d'herbe adaptée non plus, elle a été importée. Donc c'est une espèce d'herbe africaine d'ailleurs, on a utilisé plusieurs. Donc tous les pâturages au Brésil sont plantés. Il n'y a pas des prairies où les vaches viennent brouter joyeusement.
Ah oui, il n'y avait pas un paysage qui se prêtait non plus
Dans le sud, dans les pampas et une partie du Cerrado, on avait un peu de prairies, mais pas du tout dans ma région, ni dans le nord où il y a l'Amazonie. C'est pas du tout ça. C'est de la forêt tropicale.
Oui.
Pas du tout Mata Atlantica de mon côté et la forêt amazonienne dans le nord.
Donc concrètement, en fait, pour pouvoir élever des vaches, il faut d'abord déforester sur les forêts tropicales.
Tout à fait. C'est pour ça que l'élevage bovin est la plus grande cause de déforestation en Amazonie. On estime que 75% de la déforestation en Amazonie, c'est pour faire de la place au pâturage. C'est pour planter ensuite. Et donc, on plante cette herbe qui vient d'ailleurs et qui est invasive et qui empêche ensuite les plantes natives de pousser. Donc, déjà que la vache avait compacté la terre, ensuite, quand on plante cette herbe-là, ça rentre en compétition avec les espèces natives et notre flore disparaît aussi. Donc c'est vraiment, c'est pas l'ennemi des centaires et la patte de la vache, c'est pas la vache en soi, je suis pas en train de dire que c'est de la faute à la vache. Elle n'est qu'un instrument, elle est instrumentalisée pour l'expansion territoriale et la colonisation.
Et cette colonisation, elle se fait aussi au détriment et sur les terres en fait des populations indigènes qui étaient là avant les colons et qui encore aujourd'hui en fait souffrent de cette avancée continue dans la forêt sur leurs terres qui sont pourtant censées être protégées par la Constitution.
Tout à fait. Donc la première monoculture au Brésil colonial, c'était la canne à sucre sur le littoral. Mais dès le début de la colonisation, les vaches étaient utilisées comme force motrice, comme bête de charge aussi, mais aussi comme alimentation. Mais très vite, il faut toujours plus de pâturage. Donc on a commencé à avancer vers l'intérieur des terres. Donc d'abord ma région, le nord-est, elle était habitée évidemment, il y avait aussi des peuples indigènes dans ma région, et ensuite en Amazonie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça continue, c'est vraiment la plus grande menace pour la survie des peuples indigènes. Donc on parle toujours de génocide des populations indigènes, qui ça fait 500 ans que ça dure, 5 siècles.
Oui, c'est-à-dire que c'était pas juste, on parle pas de génocide juste au moment où les Portugais, les colons portugais sont arrivés au Brésil et ont entraîné la mort d'énormément de personnes indigènes. Ça continue en fait. C'est beaucoup de personnes considèrent que le génocide est encore en cours d'une certaine façon.
Toutes les personnes indigènes au Brésil vont te dire que oui, le génocide, il a jamais arrêté. C'est un projet colonial qui, même après, soi-disant, la fin de la colonisation, a été porté par l'élite qui a hérité de la colonisation, du système. Et ça continue. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que même vraiment au plus profond de la forêt, où il y avait encore des communautés qui n'avaient jamais eu de contact avec le monde extérieur, on a déjà trouvé des élevages de bovins là-bas, sur ces territoires-là, sur ces terres où il y a des communautés indigènes qui n'ont jamais été contactées par le monde de l'extérieur. Donc, c'est intéressant quand j'entends des personnes ici en France, des fois, romantiser un peu l'élevage en plein air, oui, mais ma vache, ma viande brute, pas confinée. C'est comme s'il n'y a que l'élevage confiné, c'est horrible, hein, je suis d'accord, c'est vraiment horrible pour les animaux qui sont confinés. Mais quand tu penses à l'impact sur l'environnement, mais aussi sur les peuples indigènes de l'élevage extensif, quasiment tout élevage bovin au Brésil est fait en extensif, donc sur des pâturages. C'est une machine. Bon, pour te donner une idée de la taille de la zone aujourd'hui au Brésil qui est utilisée pour le pâturage, c'est 154 millions d'hectares juste pour le pâturage. Et comme j'ai dit, quasiment tout planté. Et je ne parle pas des prairies au sud du Brésil, donc les pampas et dans le Cerrado aussi, où on utilise aussi cette partie du Brésil pour l'élevage. Donc ça fait encore 46 millions d'hectares en plus. Mais si on pense juste à la zone qui a été déforestée, où on a planté de l'herbe pour ensuite mettre des bovins, c'est 154 millions d'hectares. Peut-être que c'est trop abstrait comme chiffre.
Oui, on a du mal à se le représenter.
Voilà, donc je fais une petite recherche pour savoir combien d'hectares faisait la France. Et en fait, ça fait presque trois fois la France.
D'accord. Là, ça nous parle plus. C'est gigantesque.
Voilà. C'est trois fois la France en pâturage. Mais il faut se dire qu'avant, c'était une forêt. Avant, c'était une forêt. Et si on ajoute à ça la superficie qu'on utilise pour cultiver du soja,
il faut parler de ça en fait, du fait que c'est pas que le bétail, c'est pas que les pâturages, c'est toujours le même problème, il faut nourrir ces animaux si on veut les élever, et en fait c'est tout un système connecté qui fait que si on met de l'élevage, si on met du bétail, des vaches, des bovins, il faut aussi avoir planté du soja ou des grains pour les nourrir. Elles se nourrissent pas uniquement de l'herbe en fait des pâturages, c'est ça?
Non. Donc toutes les vaches vont brouter une grosse partie de l'année, mais leur alimentation est complémentée en soja. Mais le soja, c'est surtout, et là c'est vraiment pour les animaux confinés, donc tous les cochons élevés au Brésil, les poules, les poulets, mais aussi le Brésil est le plus grand exportateur de soja au monde. On est le plus grand exportateur de viande de vache, mais on est le deuxième producteur, le premier exportateur, mais le plus grand exportateur de soja au monde. Et tout ce soja-là, c'est pas pour faire du tofu, c'est pour nourrir les animaux qui sont élevés pour la nourriture humaine. Donc la plus grosse partie de ce soja exporté va en Chine, mais la deuxième, la plus grande acheteuse de soja du Brésil, c'est l'Union Européenne. Et donc on retrouve en France, par exemple, 60% du soja qu'on donne aux animaux d'élevage ici vient du Brésil. Donc la plus grosse partie du soja qu'on donne aux animaux élevés en France vient du Brésil. Et ce soja-là est cultivé aussi sur des terres indigènes, sur la forêt, sur des territoires traditionnels. Il n'y a pas que les peuples indigènes, il y a aussi les peuples quilombolas.
C'est-à-dire c'est les descendants d'esclaves noirs, c'est ça ?
Tout à fait, c'est les descendants de personnes qui étaient en condition d'esclavage. Quilombo, c'est le nom de ces communautés. Quilombol, c'est comme on appelle les personnes qui viennent de là-bas. Donc au Brésil, on parle de peuples originaires, c'est les peuples indigènes, et peuples traditionnels, c'est les quilombolas. Donc c'est aussi sur leurs terres qu'on fait pousser du soja. Donc c'est une machine de destruction. Pour le soja, par exemple, je pense qu'on est déjà à presque une France de soja. Donc c'est à 45 millions, à peu près 44-45 millions d'hectares. Donc la France fait 55 millions d'hectares. C'est presque toute une France, c'est déjà plus que l'Italie, de soja. Donc si vous mettez tout ça ensemble, donc les trois France pour le pâturage, plus presque une France pour la monoculture de soja, c'est vraiment immense. Et une partie de la viande brésilienne est exportée aussi, donc c'est pas que pour nous, donc c'est aussi pour le monde, donc l'Europe est responsable directement de tout ça. Non seulement pas la viande qu'on emporte ici, qui finalement n'est pas énorme, mais j'ai fait des recherches aussi pour savoir où allait cette viande, et je sais que même dans les écoles françaises, on peut trouver de la viande brésilienne.
Ah oui.
Qui vient de des terres indigènes, de la déforestation, mais surtout pour le soja. Donc la responsabilité de la France sur et la déforestation de l'Amazonie et le génocide des peuples indigènes est énorme.
Vous dites qu'en fait la consommation de viande européenne participe en fait à la destruction de l'Amazonie, à la colonisation des territoires indigènes, à la privation des terres.
Directement. Parce que non seulement il y a toute la superficie déforestée pour le pâturage et le soja, mais il faut se dire que, je disais tout à l'heure que le Brésil a une concentration foncière immense, ça nourrit les conflits pour la terre. Et le Brésil est un des pays aussi avec le plus grand nombre de conflits. L'année dernière, donc il y a une organisation vraiment très bien qui s'appelle Commission Pastorale de la Terre, qui sont liées à la théologie de la libération et qui sont sur le terrain. C'est vraiment la seule organisation qui suit tous ces conflits et qui publie des rapports. L'année dernière, 2022, on a eu un conflit pour la terre toutes les 4 heures au Brésil. Et le Brésil est un des pays qui tue le plus de militantes de l'environnement.
Hmm.
C'est énorme.
Qui sont impliquées en fait dans ces luttes pour défendre les terres.
Pour défendre. Donc là, en juin 2023, maintenant, on célèbre un anniversaire vraiment triste qui est un an de l'assassinat du journaliste anglais Dom Phillips, qui travaillait pour The Guardian, qui était depuis très longtemps au Brésil, et de Bruno Pereira, qui est un expert dans les communautés indigènes au Brésil, qui l'accompagnait, qui le suivait. L'année dernière, en juin, ils avaient disparu. Ils faisaient une enquête en Amazonie, ils avaient disparu et ils ont été assassinés. Ils faisaient une enquête sur la viande produite sur des terres indigènes. Et cette viande qui vient en Europe notamment, mais aussi là-bas. Elle est vendue par exemple par Carrefour. Donc on a déjà au Brésil, et ici en France, je pense à Casino aussi, on a trouvé de la viande de déforestation, mais bon, c'est pas les seuls. Juste des petites parenthèses, Carrefour contrôle 25% du marché de la distribution alimentaire au Brésil. C'est le géant là-bas, et Casino détient le deuxième groupe le plus grand de la distribution alimentaire au Brésil. Donc si on parle de colonisation, vous voyez, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Carrefour contrôle la distribution alimentaire au Brésil, donc décide des prix de tout. Donc les producteurs et productrices sont vraiment soumis et soumises à Carrefour. Qui vend ensuite de la viande de déforestation qui a été produite sur les terres indigènes. Donc le journaliste Dom Phillips et Bruno Pereira étaient en train d'enquêter sur ça quand ils ont été assassinés. Donc ils ont perdu la vie. Et il y en a énormément de militants, militantes qui ont laissé leur vie en essayant de dénoncer ces pratiques.
Oui, en fait, les systèmes alimentaires, en l'occurrence européens et brésiliens, mais en fait, ils sont globalisés, ils sont interconnectés, et on aurait tort de réfléchir à l'antispécisme ou aux enjeux de lutte sociale et de justice sociale seulement dans le pays où on se trouve, là on enregistre en France, parce qu'en fait, ce serait faire fi des exportations, des liens de pouvoir, des liens d'influence des entreprises qui sont elles aussi globalisées, et des conséquences, ou plutôt des causes finalement, de tous ces systèmes-là alimentaires imbriqués.
J'appelle ça maintenant la colonisation par l'assiette. On n'a plus besoin d'envahir. Bah, la colonisation maintenant se fait d'une façon un peu différente. Donc peut-être que les gens ont du mal à reconnaître ça comme la colonisation. Mais quand une personne en France remplit son assiette de poulet, va manger, je sais pas, du fromage, ce qui est dans cette assiette-là, en fait, c'est un bout de la forêt, c'est du sang indigène, c'est du sang des peuples traditionnels. Et la personne ne se rend même pas compte. Et pour moi, l'internationalisme aussi passe par ça. Maintenant, c'est pas juste solidarité envers les ouvriers et ouvrières des autres pays, c'est de se rendre compte à quel point des gestes, tout ce que tu fais dans ton quotidien peut avoir un impact sur l'autre moitié du monde. Et surtout, j'aimerais tellement que les gens en France comprennent que c'est impossible d'avoir un régime traditionnel français, 3 produits laitiers par jour, de la viande tous les jours, ou même 3 fois par semaine, hein, si on veut, sans coloniser le reste du monde. Parce que vous n'avez pas assez de place. Vous n'avez pas 3 France de plus pour faire pousser du soja ou faire des nouvelles pâturages, de nouveaux pâturages pour les vaches. Donc les gens ne comprennent pas ça. Et quand les gens disent « Non, mais moi je mange mon poulet local, oui, nourri au soja brésilien, mais non, mais l'antispécisme, ça peut passer après parce qu'on a des choses plus importantes. » Qu'est-ce qui est ? Il y a quoi de plus important que de sauver la forêt amazonienne alors qu'on a le collapse climatique qui tape à la porte là ? Il y a quoi de plus important que de sauver les peuples indigènes qui subissent une guerre, qui subissent un génocide depuis 5 siècles? Mais même si on ne veut pas penser aux peuples indigènes, si on ne veut pas penser aux autres animaux, mais le collapse climatique, comment on peut dire « non, l'antispécisme, ça passe après ». Tout est lié.
Oui, parce que pourtant, tout le monde parle de la déforestation. On en parle beaucoup plus souvent pour le soja que pour le bétail, alors que, vous l'avez dit, finalement, il y a aussi énormément de pâturages qui participent à déforester, notamment l'Amazonie. Mais les liens ne sont pas faits, en fait. On parle de la déforestation comme si c'était un enjeu de ce qui se passe au Brésil, là-bas, comme si c'était déconnecté avec nos enjeux à nous, locaux.
Et nos luttes locales aussi, parce que j'ai déjà vu des personnes qui se disent écologistes ici et qui vont, je sais pas, porter des pancartes dans les manifs pour le climat, sauvons l'Amazonie, et ensuite à la fin de la manif vont manger leur barbecue, vont manger du poulet, et qui ne voient pas qu'elles participent elles-mêmes à ça. Donc ça fait partie de nos luttes, ça devrait en tout cas faire partie de nos luttes. Donc au Brésil, on met une vache par hectare. C'est ça le modèle extensif, c'est une vache par hectare. Et quand tu penses à tout ce que tu peux faire pousser comme nourriture sur un hectare, le Brésil est retourné sur le planisphère mondial de la faim il y a 2 ans. Merci Bolsonaro, on vient de se débarrasser d'un président fasciste qui a tout fait pour vraiment nous faire souffrir au niveau maximal, non seulement les peuples indigènes, mais tout le monde. On était sortis en fait de cette situation de faim, et là on est retourné.
C'est un paradoxe gigantesque, alors que le Brésil est une immense force agricole et d'élevage, comme vous l'avez dit, qu'une si grande partie de la population brésilienne souffre en fait de la faim. C'est absurde.
On est le 3e plus grand producteur d'aliments au monde. Et pourtant, on a 60% de la population qui vit en insécurité alimentaire, dont une grande partie, donc plus de 15 millions de personnes, qui souffrent de la faim. Donc la vache, la pâte de la vache, ça cause aussi la faim. Donc pour que les gens ici puissent avoir leurs 3 produits laitiers par jour, il y a des gens de l'autre côté du monde qui ne mangent pas.
Et c'est pour ça que vous appelez à vous parler d'un antispécisme décolonial. C'est ça, le fait de penser l'antispécisme non seulement comme quelque chose d'abstrait ou penser peut-être seulement dans les pays occidentaux, mais de vous appeler à décentrer le regard par rapport à l'Occident et de dire que l'essentiel des enjeux, pratiquement, pour ce qui est de l'exploitation animale, se passe ailleurs.
Et les conséquences aussi hein, de tout ça, c'est nous qui payons, comme pour le collapse climatique. Oui, donc on parle beaucoup d'antispécisme décolonial, parce que si j'ai dit tout à l'heure que l'exploitation animale a été et est toujours un outil de colonisation, moi je vois la lutte antispéciste comme une voie de sortie, et aussi une façon, une pratique décoloniale, une pratique de décolonisation. Parce que faut se dire que même au Brésil, on a tellement intégré le message du colon, qu'on est colonisé de l'intérieur aussi. Et ça se voit dans nos pratiques alimentaires. Aujourd'hui, au Brésil, la nourriture végétale est extrêmement dévalorisée. La nourriture d'origine animale est valorisée. Donc, si on a une assiette avec plein de nourriture végétale, notre nourriture traditionnelle, le maïs, ça vient de chez nous, d'Amérique du Sud, les cacahuètes, les haricots, le manioc, ça vient de chez nous aussi. Tout ça, les gens ne voient pas ça comme de la nourriture s'il n'y a pas de la viande. Et donc on a tellement intégré le message du colon qui est arrivé il y a 5 siècles avec leurs vaches en disant « c'est ça de la nourriture, votre manioc c'est non, c'est ça de la nourriture » qu'on se bat aussi pour se décoloniser de l'intérieur. Donc on demande au peuple en Europe, évidemment, aux personnes ici, de décoloniser leurs pratiques alimentaires, ou plutôt d'arrêter de nous coloniser pour manger de cette façon. Vous pouvez faire autrement. Mais on a un travail double, parce qu'on fait ce travail à l'intérieur aussi. Mais on se bat contre des forces énormes. J'ai dit tout à l'heure que Carrefour détient 25% du marché de la distribution alimentaire au Brésil. Nestlé a une influence énorme au Brésil, énorme. Et je vais te raconter un truc. Moi, je trouve que c'est très emblématique de comment la colonisation alimentaire opère. On avait beaucoup de desserts à base de coco, lait de coco, des fruits, on a énormément de fruits. Il faut dire que la noix de coco n'est pas native de chez nous, ça a été amené aussi, mais bon.
Ça aussi, il n'y a pas que les animaux.
Non, les mangues aussi. Mais bon, je pense que c'est la seule bonne chose que les Européens ont fait, nous amener du coco et de la mangue. Mais il y a une différence entre colonisation alimentaire et juste intégration. Donc, pour qu'il y ait colonisation, il faut une volonté de dominer. Et je vois pas le lobby de la noix de coco essayer de nous dominer. Enfin, il y a pas de lobby de la noix de coco. Alors que le lobby de l'agro-industrie, de l'agro-business au Brésil, les ruralistes, comme on les appelle, c'est le lobby parlementaire le plus puissant.
Son nom officiel, c'est le Front parlementaire de l'agriculture. En fait, voilà, c'est le nom officiel du lobby de la viande, quoi.
On l'appelle au Brésil, tout le monde connaît ces personnes comme le lobby BBB. Donc bétail, donc au bœuf, bible et balle.
C'est-à-dire qu'il y a aussi un très fort lobby évangéliste et un très fort lobby militaire.
Exactement, et ça va de pair. Normalement, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et c'est le lobby parlementaire le plus puissant, c'est les éleveurs. Mmh. Et on a vu, je fais aussi un autre petit détour, mais assez important, qu'à la fin du mois dernier, la Chambre des députés a approuvé un projet de loi qui va limiter énormément l'accès des peuples indigènes à leurs terres ancestrales. Donc c'est un projet qui va limiter la démarcation des terres indigènes. Il faut se dire que...
Alors ça, faut qu'on fasse un petit point. En fait, ouais. La constitution brésilienne de 1988, à la sortie d'une période de dictature militaire, a explicitement reconnu le droit des populations indigènes à leurs terres.
Pour la première fois dans l'histoire du Brésil, en 1988.
Et est censé donc sanctuariser en fait des terres en les démarquant, c'est ça.
Exactement.
Le processus de démarcation qui était censé se faire assez rapidement dans les années qui ont suivi la constitution et qui n'est en fait toujours pas terminé.
La plupart des territoires indigènes n'ont pas encore été démarqués, ce qui veut dire que la plupart des peuples indigènes vivent au Brésil dans des zones où ils sont complètement à la merci des éleveurs ou des propriétaires terriens.
Ils ne sont pas protégés par l'État en fait.
Non. Et même quand c'est des terres protégées, déjà c'est difficile de garantir leur protection. Mais là, si c'est pas démarqué, ça veut dire qu'un éleveur de bétail peut très bien lâcher ses vaches sur ses terres et ensuite, quelques années plus tard, dire « mais non, c'est fausser des documents ». Ça, c'est très, très courant au Brésil. Et ensuite, prendre ses terres aux peuples indigènes. Et ce qui s'est passé le 30 mai là, avec ce projet de loi, c'est que, porté notamment par le lobby des éleveurs, le lobby du bœuf, c'est de dire « les terres indigènes à démarquer ne sont que les terres que, sur lesquelles les indigènes étaient en 1988.
Au moment de l'adoption de la Constitution.
Au moment de la Constitution, exactement.
Alors que, évidemment, les indigènes étaient là avant.
Non, les indigènes disent, mais si on n'était pas sur nos territoires traditionnels, c'est parce qu'on a été chassés. Et tout le but de cette Constitution et de ce processus de démarcation, c'est de nous faire justice et de nous rendre nos terres.
Oui, pas juste de figer l'état du rapport de pouvoir à la suite d'années de dictature militaire et de colonisation supplémentaire des peuples et des terres indigènes.
Et c'est exactement pour ça qu'on a énormément de conflits pour la terre au Brésil.
Oui. Énormément des conflits sont des conflits qui concernent en fait les terres indigènes justement.
Principalement, oui.
Et y compris même quand les terres sont reconnues, démarquées, quand en fait le fait d'aller mettre du bétail sur ces terres est illégal, les éleveurs, et en fait appuyé derrière par tout le système du lobby de la viande, propulsé presque par eux, continue en fait à les coloniser, y compris quand c'est illégal, et avec une forme de, comment dire, pendant tout le mandat de Jair Bolsonaro, qui vient de se terminer, désormais c'est un autre président Lula qui est élu, mais entre 2018 et donc 2022, c'était Bolsonaro au président, et donc son gouvernement, n'a pas vraiment fait grand-chose pour empêcher ou sanctionner les éleveurs qui allaient sur les terres indigènes pour déforester et apporter leur élevage ou planter ou exploiter les terres en fait.
Au contraire, le lobby du bœuf était son plus grand soutien et quand il était en campagne, il a dit, on a une vidéo, on a des preuves, il a dit, si je suis élu président, il n'y aura pas un centimètre de terre démarquée pour les indigènes. Donc c'était un projet, c'est pas seulement il n'a rien fait pour protéger les indigènes. Son projet était de prendre, parce qu'il y a vraiment cette vision que les terres, si elles sont démarquées et sanctuarisées, c'est des terres qui ne produisent pas. Et donc il y a cette vision très, la terre comme marchandise, comme moyen de production, et si on n'est pas en train de planter du soja ou d'élever du bétail sur ces terres, on est en train de les gâcher, c'est du gaspillage.
C'est ce qu'on entend aussi dans le discours des éleveurs qui viennent déforester et en fait mettre leur bétail, c'est de dire mais en fait moi je veux juste travailler et je veux utiliser ces terres et en plus on voit personne, on voit pas d'indigènes dessus donc c'est qu'en fait elles sont pas
et
occupées.
Et je travaille pour le progrès, c'est la civilisation. Écoute, c'est la même histoire qu'on entend depuis 5 siècles.
C'est la suite de la colonisation.
C'est la suite de la colonisation. On vient pour civiliser, pour utiliser ces terres, c'est le progrès de la nation. Et il y a, comme t'as dit, même sur les terres qui sont démarquées, donc c'est interdit de mettre du bétail sur ces terres, c'est interdit de les prendre aux indigènes. On a quand même des énormes élevages là-bas. Et qu'est-ce que les éleveurs font pour pouvoir vendre cette viande ensuite? Ils ont tout un système de blanchissement. C'est du beef washing.
C'est-à-dire que normalement, il y a un système de traçabilité dans les abattoirs qui vérifie si la provenance de la viande vient de terres déforestées, où là, c'est interdit théoriquement, ou de terres démarquées justement pour les populations indigènes, et donc vérifie la provenance. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par un intermédiaire.
Exactement.
Qui est légal, qui est sur... En fait, ils font se déplacer les animaux avant de les envoyer à l'abattoir, c'est ça?
C'est exactement ça, le blanchissement.
Ils blanchissent la provenance de la viande.
Et c'est cette viande-là qui s'est retrouvée ici en France, mais aussi au Brésil, vendue par le Carrefour. Et ils disent à chaque fois, mais non, l'abattoir nous a assuré que cette viande ne venait pas des terres indigènes, pas de la déforestation, mais il n'y a aucun moyen de savoir, parce qu'ils font ça, les éleveurs font ça tout le temps. Tout le temps. Ils élèvent des vaches sur des terres indigènes, des terres démarquées, sur des terres déforestées. Ils font passer ces vaches par des fermes qui, elles, sont légales sur d'autres zones, d'autres régions. Et c'est à partir de ce deuxième point-là que les vaches sont envoyées à l'abattoir. Du coup, elles arrivent à l'abattoir avec la procédance clean, pas de problème.
Oui. Et vous le dites, le projet de Bolsonaro était en fait très transparent. Bolsonaro, peut-être qu'on ne le sait pas toujours en France, c'est l'extrême droite. C'est vraiment un projet d'extrême droite extrêmement violent, d'intensification agricole, de lutte contre l'écologie, d'intensification de la déforestation, qui était très explicite. Hein. Il l'a revendiqué même dans son programme, dans ses prises de parole. Et c'est donc aussi un projet spéciste, parce que c'est un projet d'intensification de l'élevage.
On appelle carrément son genre de politique de la nécropolitique. C'est la politique de la mort. C'est non seulement la politique de la mort pour toutes les vaches, mais tous les autres animaux aussi, hein, pas que les vaches, élevées pour la viande au Brésil, qui a augmenté, qui a explosé. Et je sais que c'est difficile avec tout. J'ai tellement de chiffres dans ma tête, mais quand on entend des chiffres, des fois, ça, on peut avoir la tête qui tourne. Mais c'est difficile de ne pas les citer. On a un seul producteur de viande au Brésil, JBS, qui est le plus grand producteur de viande au monde, qui abat 75 000 vaches par jour. une seule compagnie, une seule entreprise, c'est énorme. Donc c'est la nécropolitique dans ce sens, mais la nécropolitique envers les peuples aussi, les personnes partout. Donc avec le Covid aussi, il a été, c'est un génocide. Donc on l'appelle vraiment, il y a des procès contre lui. Il avait un projet génocidaire. C'est de la nécropolitique à tous les sens. Et ça va ensemble. C'est ça que les gens doivent comprendre. L'exploitation animale va ensemble avec aussi l'exploitation de la forêt, de la nature et des projets racistes aussi. Ça perpétue. J'allais parler de Nestlé, mais peut-être que je reviendrai après de son projet colonial avec Carrefour. Mais par exemple, pour le racisme aussi au Brésil, on sait que la plupart des personnes qui travaillent dans les abattoirs sont racisées. Des fois même des peuples indigènes, des personnes indigènes qui, une fois privées de leur terre et de la capacité de survivre de la forêt, sont obligées ensuite à travailler sur des élevages. Il faut dire aussi que l'élevage au Brésil, c'est un des secteurs où on trouve le plus d'esclavage moderne. Tous les ans, on a des rapports avec le nombre de personnes trouvées en situation d'esclavage moderne, l'élevage c'est toujours en haut. Donc, et ces personnes-là sont quasiment toutes noires. Donc c'est toujours le même projet, ça change un peu, mais c'est les mêmes dynamiques qui sont peut-être plus difficiles à identifier maintenant, mais tout aussi dangereuses. Et donc pour retourner sur Nestlé, son projet de colonisation de l'alimentation au Brésil, donc on avait beaucoup de desserts à base de fruits, et à base de lait de coco, et Nestlé a créé le lait, enfin pas que Nestlé, mais bon, le lait concentré sucré, je sais pas si tu vois, c'est pas très populaire en France, c'est des petites boîtes de lait concentré sucré, qui a été créé en fait comme nourriture de guerre, c'était envoyé pour les soldats à la fin du 19e siècle, c'était une façon d'avoir du lait qui ne se périmait pas. Mais après la guerre, bon, il fallait écouler tout ça, c'était un trop bon filon, il fallait donner ça à quelqu'un. Nestlé a commencé à faire toute une campagne pour dire que c'était bon pour les enfants. Donc j'ai trouvé plein de pubs des années 20 même, 40, où on incitait les mères à donner du lait concentré sucré au biberon, et limite arrêter d'allaiter et donner ce lait parce que c'est plus sûr. Et après, Nestlé a commencé à vendre des formules pour les bébés, le lait en poudre. Et donc il fallait faire quelque chose de ces, encore une fois, de ces petites boîtes de lait concentré sucré. Et dans les années 60, il y a eu tout un projet, c'est vraiment un projet, on a encore la personne qui était responsable, qui est encore en vie, qui en a parlé, de changer complètement les desserts au Brésil pour que dans tous les desserts il y ait du lait concentré sucré. Donc petit à petit, le lait de coco a été remplacé par du lait de vache de Nestlé, pas n'importe lequel, et ça a été tellement un succès qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun dessert au Brésil où il n'y a pas de lait concentré sucré. Nestlé sortait dans les années 60 et 70 des petits livrets de recettes qui s'appelaient les vrais desserts brésiliens, ou les desserts traditionnels brésiliens, un truc comme ça. Tu vois, mais vraiment pour dire, quelle tradition, enfin, vous avez amené les vaches chez nous, c'était hier, enfin, quelle tradition brésilienne. Mais bon, c'est sa vision. Et aujourd'hui, le Brésil est le pays qui consomme le plus de lait concentré au monde. Ça a été un gros succès.
Énorme succès.
Énorme succès. Et donc voilà, les vaches, et on produit ce lait là-bas. Donc encore une fois, plus de terres déforestées pour des vaches laitières dans ce cas-là, pas des vaches pour la viande. Mais nos desserts ont été colonisés. Je pense qu'on n'en parle pas assez de à quel point la table est un territoire de disputes coloniales. La table aussi est colonisée, les estomacs sont colonisés. Parce que, regarde, c'est trop beau comme projet colonial. Si t'arrives à nous faire avaler la nourriture du colon, on va penser comme le colon, on va vouloir vivre comme le colon, et c'est le mode de vie colonial qui va primer. Donc on voudra plus manger le manioc des peuples indigènes, le maïs cultivé par les peuples qui l'embolent. Non, on veut du lait concentré sucré à Nestlé vendu à Carrefour, qu'on achète à Carrefour.
Ouais. Faut voir que le résultat finalement de cette situation politique particulière au Brésil fait qu'il y a une forme de convergence d'intérêts qui appelle à une convergence des luttes presque entre les luttes pour les territoires indigènes, les luttes écologistes, les luttes antispécistes, les luttes pour les droits d'accès à la terre des paysans sans terre. En fait, tout va dans le même sens contre cette énorme machine qui opprime tout le monde.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on a pu au Brésil avoir des alliances avec des mouvements sociaux qui ne sont pas antispécistes à la base, comme le MST par exemple.
Maintenant qu'on a bien décrit la situation politique du spécisme au Brésil, et ses interconnexions avec d'autres systèmes d'exploitation, on verra dans la prochaine partie comment se sont construites des alliances entre plusieurs luttes sur le terrain. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'expérience militante de Sandra Guimaraes et des collectifs dans lesquels elle s'est impliquée. Rendez-vous donc dans 2 semaines pour la suite. Bisous.